Voilà, bah bienvenue sur le cours de F6KGL. Et ce soir, donc, on voit la deuxième partie du chapitre 1. Et on va parler des classes d'émission et des conditions techniques. Donc, on commence doucement les particularités techniques. Et donc, voilà, on va essayer de voir ça dans le détail.
Il a quel âge, cher page?
C'est la page 14. Alors, on va commencer par quelque chose qui est assez rébarbatif, mais qui est important parce qu'il y a systématiquement deux questions, au moins, sur ce thème-là, qui sont les définitions des classes d'émission. Alors, la définition d'une classe d'émission, c'est. Alors, déjà, un et d'une, c'est quelque chose qui est défini de manière internationale. Donc, tout le monde doit utiliser la même, les mêmes codes. Et ça, du coup, c'est une des annexes du RR, enfin, un appendice. Et c'est l'appendice 1 du RR. C'est-à-dire que si vous voulez avoir toutes les informations, on va en donner ici quelques-unes. Et si vous voulez vraiment avoir l'intégralité des informations, vous allez dans l'appendice 1 du RR. Et là, vous devez avoir une quinzaine de pages qui vont vous expliquer point par point en détail tout ce que l'on va voir là. Nous, ce dont on a besoin, c'est juste de connaître les classes d'émission, mais la classe d'émission sous forme trois caractères. On va voir que pour codifier une classe d'émission, l'ERR a prévu de rajouter un préfixe qui va donner des informations sur la bande passante nécessaire à la transmission du signal. Et d'autre part, un suffixe, où là on a deux lettres, qui vont donner des informations complémentaires sur le signal transmis. Donc il y a deux choses. En fait, la classe d'émission, on la verra tout à l'heure, enfin complète, style RR, mais nous, ce qui va nous intéresser pour nous, on va faire ça de manière simplifiée en ne prenant que les trois caractères qui sont au milieu. Voilà. Donc ça, c'est l'intégralité des codes qui sont disponibles dans le RR. Les radioamateurs ont droit à tous les codes, enfin toutes les classes d'émissions possibles et imaginables. On n'a plus de limites. Avant 2012, ce n'était pas le cas. Avant 2012, il n'y avait ici que ce qui n'était pas encadré, hein, ce qui étaient encadrés, ce sont les codes qui ont été ajoutés en 2012. Et donc, bon, on va les voir un par un. Donc, première lettre, c'est le type de modulation. La modulation de la porteuse, qu'on appelle la modulation de la porteuse. Donc, c'est type de modulation. Donc, vous reconnaissez amplitude, ça tout le monde connaît. Angulaire peut-être un peu moins, mais en fait dans angulaire, on a deux types d'angulaire, on a soit en fréquence ou en phase. Alors on verra ce que veut dire modulation de fréquence et modulation de phase quand on fera la partie technique. Là en l'occurrence, pour le moment, on sait que c'est différent, on sait qu'à l'oreille, c'est la même chose, mais par contre si vous utilisez un ordinateur pour démoduler, il faudra bien savoir si vous êtes en modulation de fréquence ou modulation de phase, parce que ce n'est pas du tout la même fonction mathématique pour démoduler. Donc, si vous essayez de démoduler une modulation de fréquence avec un bout de logiciel qui démodule la phase, ça ne va pas marcher, et inversement. En revanche, l'oreille, elle fonctionne très bien. Elle sait faire, enfin, elle ne fait pas de différence entre les deux. Ensuite, il y a une amplitude un peu bizarre, enfin un peu particulière, qu'on va appeler la BLU, avec à l'intérieur trois formes, porteuse supprimée, porteuse réduite, porteuse complète. La porteuse complète n'est pas utilisée par les radioamateurs. La porteuse réduite, elle est utilisée quand on a un appareil BLU pourri. Parce que ça veut dire qu'il y a une porte, il y a un bout de la porteuse qui est émis, alors que normalement on ne devrait pas le faire. Et BLU porteuse supprimée, c'est la BLU pure, quoi. Et puis après, on peut faire ensemble, moduler et en amplitude et angulaire. Et quand on dit angulaire, les trois quarts du temps, je dirais 99% du temps, c'est en modulation de phase. On est en amplitude et en phase. On verra cette partie-là particulière, encore une fois, dans la partie technique, parce que ça nécessite à connaître, la manière... c'est de la trigo, donc pour le moment, on n'est qu'à la partie réglementation. Ensuite, on a les modulations qui ne sont absolument pas utilisées par les radioamateurs, ce sont les trains d'impulsion. Notamment, ça va être utilisé dans les radars, par exemple. Et ça, alors, on pourrait l'utiliser, mais je ne vois pas trop à quoi ça servirait. Et concrètement, je ne sais pas si quelqu'un les utilise. Mais bon, pour transmettre du signal en train d'impulsion, j'ai un peu de mal à concevoir le truc.
Mais quand est-ce que c'est utilisé, ça ?
Il n'y a pas écrit, tu dis train d'impulsion. Il n'y a pas, derrière, on n'a pas la fréquence, enfin les bandes de fréquence utilisées. C'est juste la classe d'émission. Et puis enfin, on a le W, combinaison et canon couvert ci-dessus. Alors je ne vois pas trop ce qu'on pourrait imaginer, mais bon, au cas où il y ait des gens qui aient des idées pas possibles, on pourrait utiliser la codification W. Et N, c'est porteuse non modulée. Donc quand vous faites un tune, pour régler votre antenne sans charge non rayonnante, et ben vous utilisez une porteuse non modulée.
Bah oui.
Hein? Donc ça, c'est la première lettre. C'est la modulation de la porteuse. Oui, dans les modulations d'amplitude, il y a trois grosses modulations d'amplitude. Modulation d'amplitude avec double bande latérale, avec les bandes latérales indépendantes. C'est absolument pas utilisé par les radioamateurs parce que c'est super compliqué à mettre en œuvre. Ça se fait, mais par contre, c'est assez compliqué à...
Oh, chier.
Ouais. Et ces bandes latérales résiduelles, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les bandes latérales, elles sont coupées. En règle générale, c'est que le signal, l'information transmise a une très large bande, du style de la télévision. Et du coup, le bout des bandes latérales
dépasse un peu.
Donc c'est coupé. C'est pour ça qu'on appelle ça la bande latérale résiduelle. Bon. Ce que l'on va voir, nous, radioamateurs, c'est A, amplitude, F, fréquence, G. Alors vous voyez, A, amplitude, ça marche. F, fréquence, OK. G, phase. Alors là, pourquoi? Aucune idée. La BLU, J, pourquoi? Je ne sais pas. R, réduite, pourquoi pas. H, porteuse complète, je ne sais pas pourquoi. D, amplitude et angulaire. Ensuite, on a les chiffres. Et après, l'information transmise. Je vais vous passer le slide suivant parce qu'on va voir en détail toutes ces classes d'émission, enfin la signification de ces classes d'émission. Donc, le type de modulation, là, j'ai essayé de les mettre par ordre alphabétique. Ça permet peut-être de comprendre un peu mieux comment c'est foutu. Là, ce que je vous ai mis, c'est dans l'ordre du RR, qui n'est pas en ordre alphabétique. Mais quand on remet ça en ordre alphabétique, ça commence à ressembler à quelque chose. Ici, les modulations d'amplitude, A, B et C. A, c'est ce qu'on va utiliser. Ici, les modulations angulaires, F et G. Le E, qui n'est pas utilisé. Ne demandez pas pourquoi. Il n'est pas utilisé. Et entre amplitude et angulaire, ben, c'est le D, amplitude et angulaire. C'est logique.
Et ça tient dans la case.
Et ça tient dans la case. Et à la fin, on a H, le I n'est pas utilisé, le J et le R, tout ça pour la BLU. Et donc, on s'aperçoit qu'on a quasiment toutes les lettres utilisées, sauf le O et le I. Ça, c'est pour pas, ne pas confondre avec 0 et 1. Ça, souvent, c'est toujours... on n'utilise pas O et I pour éviter la confusion avec 0 et 1. Et puis, les lettres S, T et U. Voilà. Donc, et puis après, le W, il existe. Le X, le Y et le Z. Voilà, donc vous avez ici tous les types de modulation avec du coup les trains de modulation qui vont être là-dedans, qui vont être au milieu de la BLU. Pourquoi ? Aucune idée, mais j'ai essayé de reconstituer une logique. Et là, vous avez en gras les types de modulation sur lesquels portent les questions régulièrement. Donc, s'il y a des termes à apprendre, c'est A, D, F, G, J et R. Je rappelle, amplitude, le G, d'abord le D, amplitude et angulaire, puis fréquence, enfin F fréquence, G phase, J BLU porteuse supprimée et R BLU porteuse réduite. Donc ça c'est pour la logique de codage et essayer d'avoir un petit peu de codification mnémonique. La logique du codage du signal modulant, oui, la deuxième chose, là, c'est ce qu'on appelle le signal modulant. C'est-à-dire, ma porteuse, je vais la moduler. Mais comment je vais la moduler ?
Avec soit de l'audio.
Ah non, 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 ça c'est le signe, ça c'est l'information que tu transmets, ça.
Comment tu démodules tes FM, AM, c'est
ça ? Ah non, 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 modulation, c'est quelle forme a le signal.
Oui.
Signal modulant, c'est quelle forme aura le à l'intérieur mon signal modulant.
Donc, tu veux transmettre soit.
Ah ben, en fait.
Soit de l'audio.
Alors, si c'est de l'audio.
Interrompu.
Si c'est de l'audio, c'est ce qu'on appelle de l'analogique.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de logique. Analogique, c'est sans logique. Ouais. De la télévision, c'est analogique.
Ouais.
Hein? En revanche, si j'en transmets du numérique ou pseudo-numérique, là je peux avoir plusieurs possibilités. J'en ai des masses là.
Du telex ?
Je peux. Alors du telex, mais je peux émettre en tout ou rien. C'est-à-dire que ce qui me permet de porter, c'est le fait qu'il y ait justement une porteuse ou pas de porteuse, typiquement en morse, j'aimais pas. Okay. Et je peux aussi, comme en telex, émettre une fréquence ou une autre fréquence. Ça, c'est une deuxième possibilité. Troisième possibilité. Alors, donc ça, ce sont des modulations que j'appelle série. C'est-à-dire que tes informations, elles sont les unes derrière les autres. Mais rien ne t'empêche de le faire en parallèle. C'est-à-dire d'émettre deux notes en même temps. Par exemple. Et dans ce cas-là, tu es en numérique, plusieurs voix.
Et après, au bout, tu prends un entonnoir pour...
Après, tu fais l'inverse. Tu as une espèce de peigne où tu dis, alors qu'est-ce que l'autre m'a envoyé, c'est quelle fréquence, Et fonction de ça, tu récupères. Et là, je te dis deux, mais tu peux en avoir un grand nombre. Et puis enfin, tu peux émettre à la fois du numérique et de l'analogique.
Oui, c'est pas mal non plus.
C'est pas mal non plus. Donc voilà, une fois que tu as dit tout ça, et ben voilà, tu as tous tes codes, et puis tu as aussi la possibilité de ne pas avoir de signal modulant.
Donc c'est une porte obscure.
Voilà, t'es une porte obscure. Et puis il y a encore le X, autre cas. Voilà, bon, c'est pas trop. Il prévoit toujours les autres cas. Hein. Je vois pas ce que ça peut être, mais c'est prévu.
C'est un signal qui va piloter un drone.
Ben oui, mais il pilote comment? Ah ben, faut le savoir, hein. Qu'est-ce que tu émets?
Numérique.
Ben, je pense que c'est du numérique. Et sur plusieurs voies. Pour que ça pour envoyer plus d'informations. Donc ça, c'est mon signal modulant. La logique de codage, c'est quoi? 1 et 2, c'est du numérique avec une seule voie. Hein? Donc le 1, c'est ce qu'on appelle du numérique simple, c'est-à-dire j'émets ou j'émets pas. Alors, on verra la définition. La définition, elle est très tordue. Je ne l'ai pas dans le RR là, mais. Attends, je l'ai peut-être là-dedans. Elle est encore plus. Enfin, il faudrait que je retrouve la définition dans le RR. Mais, vous allez, alors, c'est une phrase, ça n'en finit pas. Hein. C'est super précis. Alors, annexe 1 du RR, où c'est qu'elle est? Annexe 1 du RR. Annexe 1 du RR. Annexe 1 du RR. Alors, évidemment, quand on cherche. Voilà, ça y est. Alors, dans le RR, on dit que pour le code 1, une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, sans emploi d'une sous-porteuse modulante, cela exclut le multiplexage par répartition dans le temps. Donc là, on ne peut pas faire du multiplexage, envoyer plusieurs signaux en même temps. Et c'est donc de l'information quantifiée ou numérique. Numérique, c'est des 0 et des 1. Quantifié, c'est typiquement le morse. Un trait, un court ou un long. C'est un signal, une information quantifiée.
Ah oui, on envoie une quantité de temps.
Voilà, une quantité de temps. C'est tordu, hein, comme. Mais voilà, ça fait partie, c'est des définitions. Donc voilà.
Ils ont dû se faire des nœuds au cerveau là,
Ah bah pour écrire ça, hein. Ça c'est sûr. Hein. Et donc le 2, c'est la même chose, sauf que il y a une sous-porteuse modulante. C'est-à-dire que dans mon 1, quand j'émets en morse, je n'émets pas de son, j'émets une porteuse. J'émets ou j'émets pas une porteuse. Avec le 2, j'émets un son, donc ma porteuse, elle est modulée. J'émets un son ou un autre.
Pour recevoir le morse avec un poste à galère.
Ou alors, je peux aussi émettre en morse avec une note ou ne pas émettre avec une note. Mais là, je vais utiliser le 2 parce qu'il y a une note. Typiquement, si je suis en FM, je suis obligé de moduler avec une note mon morse, sinon j'entends rien.
Ben oui.
D'accord? Donc le F1A, c'est pas possible techniquement. Ça doit être du F2A. Bon, ça c'est pour que vous compreniez bien la logique du truc. Donc pour revenir à mon système là, premier pavé, donc, c'est numérique. Le numérique simple, le numérique avancé avec une porteuse modulante. Le numéro 3, c'est analogique. Alors, analogique, c'est tout ce qui n'est pas numérique. Donc, essentiellement, la voix, l'image. Et quand on parle d'image, c'est de la télévision et pas de la DATV qui est de la télévision numérique. La télévision analogique,
Merci.
hertzienne. Ou du fax, des images fixes.
Comme un bulletin météo, par exemple.
Par exemple, même s'il y a des petits signaux, enfin, il y a les en-têtes de ligne et les en-têtes de page, de temps en temps, mais entre les deux, le signal qu'il y a, c'est de l'analogique. Hein.
Ça reste ça, parce que l'en-tête, elle sert à montrer le début de l'image et la
Oui,
fin de l'image.
c'est ça, c'est tout. Mais
Et
c'est.
en fait, c'est combien d'images météo pour recevoir du satellite.
Ouais.
C'était comme ça.
Ah oui, mais
Dans
c'est
le
toujours
Nord,
comme
c'est
ça.
toujours comme ça.
C'est toujours comme ça.
Bon, ben, ça, il est toujours là,
C'est
cette
toujours
année.
celui-là. C'est toujours le même standard. Il
Ça
n'a pas
fait
bougé.
des années qu'il est.
Ah bah oui. Bah, ils en ont rajouté d'autres. Mais c'est toujours pareil. Et donc après, donc 1, 2, 3. Et après, 7, 8, 9. 4, 5, bah, ce n'est pas utilisé. 4, 5, 6 n'est pas utilisé. Et 7, 8, 9, on reprend la même logique. On a plusieurs voix. Donc on envoie en parallèle des informations en parallèle. En numérique, puis en analogique. Typiquement, là, en analogique, quand vous êtes en FM stéréo, vous envoyez bien deux voix audio.
Oui, la différence de mono.
Et si vous rajoutez du RDS dessus, eh ben c'est le code 9, puisque vous envoyez en plus de l'informatique. Hein, le RDS, c'est ce qui s'affiche sur votre. Sur votre autoradio.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment considéré comme. Parce que si tu. Enfin, excuse-moi d'être un petit
Ouais,
peu taquin,
ouais.
mais alors pour revenir à la télé, tu parlais de la télé.
Ouais.
La télé, ok, l'ancienne télé.
Oui, pas
On
la
avait
numérique,
bien
hein.
le télétexte.
Eh
Ah.
oui, mais tu rem... Oui, je suis
Non, mais
d'accord. Oui, il y a
comment
qui avait
ça.
en plus le télétexte.
Donc, du coup, il y avait le flux d'images qui arrivait.
Et en plus,
Et en plus de ça, on avait la possibilité d'appuyer pour
voilà,
avoir
pour,
des
exactement. Donc
pages.
on devait être finalement non pas en, non pas en analogique, mais en analogique et numérique, je suis d'accord.
Tu penses ça, quoi?
Ah oui. Oui. Je suis d'accord.
Mais comment tu étais en Je
licence?
suis taquin, hein? Je suis
Non,
taquin.
mais t'as raison, hein. Faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout des raisonnements.
Ouais. Non, mais enfin, ouais, c'est vrai
Voilà,
que
mais
c'est ça.
en fait, il faut à chaque fois réfléchir qu'est-ce que l'on fait? Quelle information envoie-t-on?
Mais du coup, on ne pourrait pas envoyer une image en analogique, ça serait pas
Ben
possible.
si, mais que l'image. Enfin, ce que l'on faisait avant dans les, dans, avec la vidéo que tu envoyais, enfin, les reportages, les reporteurs sur leur moto, là. C'est comme ça, ils envoyaient que l'image et le son. Ils s'en foutaient du télétexte.
Ah non, c'était pas. D'ailleurs, c'était fait après en
C'était fait
régie.
après
Je
en
pense que, de
régie.
toute façon, là, il y a
C'était.
deux types de communication. Il y a la communication
Oui.
du motard, par exemple, qui se
Qui
fait
est
avec
à
une caméra
l'hélico,
normale,
voilà.
à l'hélico ou à la base qu'ils
Ouais,
avaient
ouais, ouais.
localement,
Et
via
puis
le
après à la régie,
retransmetteur, via
voilà.
satellite, je pense.
Oh non, je pense pas. Non, ça devait être directement passer par la régie. À la régie. Enfin, je sais pas.
Il y avait un camion blindé
Je sais pas.
par. Là, il me semble que c'est par satellite, c'est un
Ah,
lien
peut-être.
satellite qu'ils ont pour monter le flux et c'est récupéré
Et
de
c'est
l'autre côté.
redescendu, bah je sais
Non,
pas,
non,
peut-être.
c'est pas ça. C'est pour ça que les. Hein? Je sais pas du tout. Alors, moi, je ne connais pas, c'est pas mon métier. Hein. Ah. En tout
Je
cas.
sais pas. Bon, enfin bon, en tout cas, voilà comment ça fonctionne. Et enfin, troisième caractère. Alors vous remarquerez une lettre, un chiffre, une deuxième lettre. Et donc après, bah, on a le type d'information transmise. Qu'est-ce que l'on envoie? Donc on va les voir en détail.
Quelle question,
Alors, si je comprends bien, la porteuse est le support du signal, le modulant est le type de signal, voilà, et l'info est la lettre, c'est ça. Exactement. Une fois qu'on a bien ça en tête, Voilà. Il faut l'avoir en tête. Et donc, la logique de codage de l'information transmise, alors ça, c'est moi qui me suis fait mon petit mnémotechnique maintenant. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je l'aime bien, celui-là. A comme auditif, parce que c'est la télégraphie auditive, on la décode à l'oreille. Même si on utilise un ordinateur pour le faire, c'est de la télégraphie auditive parce qu'elle peut se décoder à l'oreille. Ce n'est pas parce que vous allez utiliser un ordinateur pour décoder le morse que vous allez passer en B, machine pour décoder. La machine pour décoder, c'est typiquement ça, le telex, par exemple. Ouais, voilà. Le telex. Je vous défie de décoder du telex à l'oreille.
Humainement incompréhensible.
Voilà, ça va trop vite.
Par une machine.
Ça va trop vite. Et donc, alors, différence entre la télégraphie automatique et la transmission de données, c'est quoi? C'est qu'en télégraphie automatique, il n'y a aucun système qui permet de vérifier que le codage est bon. Un telex, s'il y a des parasites, il ne va pas marcher ou il racontera n'importe quoi. Alors que si on utilise un mode transmission de données, il y a tous les, ce qu'on appelle les contrôles de redondance.
Absolument.
Et donc, ça permet d'être certain que tous les bits transmis ont bien été reçus.
Oui, parce que justement, il énonce dans la tête, il énonce, j'envoie tant de données,
voilà,
50 données.
Alors qu'un telex, il te balance ces informations sans plus. D'accord ?
Ouais. Oui, c'est un peu, si on veut le ramener au monde numérique, c'est un peu la différence dans les deux protocoles TCP et
ouais.
UDP.
Ouais.
UDP, c'est quand on regarde Netflix, il envoie la vidéo, il s'en fiche que tu la reçoives ou pas. Et TCP,
ah, mais
c'est
même
plutôt les emails.
Ben oui.
C'est comme ça. C'est-à-dire que l'UDP, on va lancer la connexion,
oui,
on va appuyer sur play,
oui,
et le flux va être envoyé.
Oui, mais d'accord, mais tu as quand même des corrections d'erreur, c'est-à-dire qu'il y a des...
Il n'y a pas de correction d'erreur sur le flux vidéo là-dessus.
Il n'y a aucune.
C'est de l'UDP, justement, c'est le but du protocole.
Ah bon, d'accord.
C'est-à-dire que c'est le
mais en radio, qui va relancer. En radio, c'est compliqué, ça.
Oui, mais enfin, là, c'était pour imaginer
d'accord.
Ce que tu faisais. Là où il y a le contrôle... Ça va être quand tu vas envoyer un email, par exemple.
Ouais, oui, parce que
quand
là.
Tu vas
ouais.
chatter avec quelqu'un, ouais. Parce que là, il
faut être certain que,
voilà.
qu'il n'y ait pas de merde.
Voilà.
Donc, A, B, donc télégraphie automatique, C, c'est copie. Copie, c'est image fixe. Un fax, c'est une image fixe. Ce que l'on. Alors, il y a aussi un truc équivalent qui est la SSTV. De la SSTV, donc Slow Scan Television, c'est du facsimilé. C'est des images qui... ça descend en 8 secondes. Donc c'est des images fixes. Malgré son nom, SSTV, c'est pas de la télévision. C'est pas un flux vidéo.
D'accord. Le débit n'est pas assez grand. Quoi.
Voilà. Donc ça, c'est le C, copie. Et évidemment, ça ne peut être qu'analogique des données, transmission de données, donc là c'est du numérique, systématiquement ça ne peut pas être analogique, là. Ça ne peut être que numérique, E comme écoute, donc c'est de la téléphonie, donc c'est la voix, et c'est de la voix non codée numériquement, hein. C'est de la voix, point barre, qui passe à travers le micro et qui est envoyée directement à l'émetteur. F comme France Télévisions, donc c'est de la télévision, et c'est bien que la partie vidéo, c'est-à-dire que si on envoie la vidéo et l'audio, eh ben c'est une combinaison. Et c'est pour ça que jusqu'en 2012, les radios amateurs, quand ils faisaient de l'émission télévision, il ne pouvait pas envoyer en même temps l'audio. Ils n'avaient pas le droit. Ils le faisaient, c'était toléré, mais ils n'avaient pas le droit, puisque le W ne faisait pas, enfin donc la combinaison ne faisait pas partie des codes autorisés, des classes d'émission autorisées. N, no info. Voilà, encore une fois, on n'envoie pas d'informations, donc pourquoi émettre? Bon.
Voilà, là ça pourrait être par exemple du 433, les gars, par exemple.
Non, mais un signal de télécommande.
Oui, voilà, t'as pas besoin d'informations.
Bah, t'as quand même besoin d'informations, parce que si tu appuies sur ton bouton et que ça ouvre tous les portails du quartier,
non, mais là, c'est
un peu chiant.
C'est pas les informations
non, mais
clair.
Pas.
C'est pas du clair. Quoi.
Ah non, nos infos, c'est que tu n'envoies aucune information. Dans une télécommande, tu envoies un code.
Ah, il y aura quand même un code en plus.
Ah bah oui, alors là, bah, puisque tu as un truc pour le faire reconnaître ta télécommande par le récepteur.
Ça, c'est différent.
Pourquoi?
Ça, c'est une fois que l'émission est... C'est-à-dire que...
Non. T'as jamais monté une télécommande de portail.
Si, enfin, pas de portail, mais de relais, ouais. Oui, j'ai déjà fait.
Et il faut bien que ton récepteur...
Il
récupère l'information. Mais c'est pas une fréquence. Non, c'est pas la fréquence. Il t'envoie un code. La télécommande, elle envoie un code.
Je crois que c'est pour caler sur mon codage des deep switch qui font bouger dans l'état.
Ouais.
D'accord.
Parce que tu dois avoir, je sais plus combien il y a de combinaisons possibles, parce qu'en fait, c'est tous les codes que peut générer ta télécommande.
Ça, en fait, c'est un protocole qui est fait entre la télécommande.
Oui, mais ta télécommande, elle n'envoie pas, elle envoie des informations numériques. Elle envoie une trame, et c'est ton récepteur derrière qui dit ah bah tiens, je reconnais cette trame, c'est ma télécommande, donc j'ouvre le portail ou je le ferme, selon.
Ouais, c'est mon autorité, c'est ça.
Voilà, et W, bah, c'est quand on mélange tout ça. Donc, quand on mélange de la téléphonie avec de la transmission de données, on peut envoyer les deux en même temps, de la téléphonie avec de la vidéo, voilà, enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut après. Hein. Et puis aussi, on peut faire téléphonie audio plus vidéo, plus données pour faire justement le télétexte. Voilà. Et histoire de compliquer un peu les choses, là je vous ai donc donné ici l'ordre dans lequel on doit coder la classe d'émission. Le problème, c'est que la définition de la classe d'émission, elle ne se dit pas dans ce sens-là. On ne va pas dire d'abord modulation d'amplitude. On va commencer par dire l'information transmise, parce que c'est ça qui est important. Alors déjà, dites-vous bien que c'est un truc qui est plutôt anglo-saxon, donc qui commence toujours par la fin.
Ils nous la font à l'envers.
Voilà. Donc, on commence par le type d'information transmise, donc là par exemple le B, puis le type de modulation, parce que c'est ça qui est la deuxième chose la plus importante, et la troisième chose qui est importante mais qui est moins, en fait c'est par importance. Et ce qui est moins important, c'est le signal modulant, c'est plus de l'information, le signal modulant. Et donc, quand on fait tout ça, bah, le B, c'est donc ma télégraphie automatique, hein, B, bécane. A, c'est ma modulation d'amplitude double bande latérale. Et 2, c'est donc une seule voie numérique avec sous-porteuse modulante. Donc ça, A2B, c'est la définition officielle, télégraphie automatique, modulation d'amplitude, avec emploi de sous-porteuse modulante. Ça, c'est la définition officielle. En règle générale, d'ailleurs, dans les questions NFR, on vous dit modulation d'amplitude avec emploi de sous-porteuse modulante. Sachant que Enfin, on sait que modulation d'amplitude, le A c'est double bande latérale, voilà, c'est pas les cas particuliers de, que sont les B et les C. Et enfin, ce qui est très important, c'est que lorsque ce troisième, le caractère, là, le chiffre, et le chiffre 3, donc analogique, bah, on le dit pas. On sait que la téléphonie, c'est analogique, donc c'est même pas la peine de le préciser. Il n'y a pas de débat, puisque on peut n'avoir que de l'analogique. Et donc, voilà, ça, c'est des questions assez classiques, tout au moins jusque-là. Donc, A1A, télégraphie auditive, modulation d'amplitude par tout ou rien sans un coup à deux sous-porteuses modulantes. A1B, télégraphie automatique, modulation d'amplitude par tout ou rien sans emploi de modulation. De porteuse, de sous-porteuse modulante. Ça, c'est typiquement, ça, c'est du... alors, je ne sais pas si vous connaissez le Hallschreiber. Ça, c'est un truc... c'est des lignes qui s'affichent comme ça, et à la fin, tes lignes, bah, ça te fait ton texte. Hein, faut le faire, faut l'avoir vu une fois. C'est super marrant comme truc.
Tu veux dire les caractères sont tous découpés en tranches ?
En ligne, et puis faut le voir une fois.
Non,
ça fait des lignes comme ça, et les lignes forment à la fin une lettre. D'accord. Ça ressemble un petit peu, c'est comme si tu écrivais en
dilaté.
Ouais.
Tu aurais fabriqué du pixel, quoi.
La longueur des traits, en fait, correspond au profil de...
Non, tu le vois une fois. Après, tu comprends vite.
Comment ça s'appelle ?
Hallschreiber. H-E-2-L, Schreiber, comme écriture. H-E-2-L. Et Schreiber, c'est S-C-H-R-E-I-B-E-R. Hallschreiber. Schreiber, écrire, hein, en anglais, en allemand.
C'est complexe, quand même, hein.
Je vais voir ça, qu'est-ce qu'il a. Comment il a écrit ça, monsieur Schreiber?
Voilà. F2A, donc télégraphie auditive, modulation de fréquence, une seule voix avec sous-porteuse modulante. F3E, téléphonie, modulation de fréquence, ça c'est facile. J3E, téléphonie, modulation d'amplitude BLU, porte supprimée. F7W, ça se complique un petit peu. Combinaison de différents types d'informations, modulation de fréquence, plusieurs voies numériques. Alors oui, ne pas confondre les classes d'émission avec les protocoles. Hein, la SSTV, c'est un protocole. Le PSK31, c'est un protocole. Mais ces protocoles utilisent une classe d'émission. D'accord ? Et histoire de rigoler, N0N, aucune information, porteuse non modulée, donc je me suis endormi sur mon manipulateur.
Normalement, tu te prends plein de gueule quand tu dors dessus.
Tu bloques la ligne, hein,
Ouais.
Tu bloques la fréquence, quoi.
Voilà.
Moi, j'ai raconté, j'étais au clavier avec un contrôle à distance, et puis je lui dis au bout d'un moment, merde, je viens de me prendre mon clavier en plein de poids. Je suis tombé le dé.
Voilà. Donc, les stations peuvent utiliser toutes les classes d'émissions qu'on a vues. Ce qui n'était pas le cas, alors c'est mars 2013, alors le texte a été sorti en courant 2012, mais mis en application, enfin publié au journal officiel en mars 2013. Donc l'arrêté avait été signé au mois de décembre, mais il a mis 3 mois à sortir au journal officiel.
Comme souvent.
Et donc avant mars 2013, on pouvait... Enfin, utiliser ces classes d'émissions là qui étaient donc non autorisées, mais il fallait en faire la demande auprès de la NFR. qui autorisait temporairement. Donc il fallait demander, et puis il te disait, bah, valable un an, deux ans, mais pas ad vitam aeternam. Donc voilà, depuis 2013, nous avons le droit de faire ce que nous voulons, sur les fréquences évidemment qui nous sont autorisées.
Voilà.
Évidemment. Seul cas de figure, ce sont les ex-classe 3 qui ont été, parce que je rappelle, en 2012, il n'y a plus qu'une seule classe de... pour passer l'examen. Auparavant, il y en avait trois. Et donc, ceux qui avaient réussi l'examen de classe 3, ils restent avec leur droit de l'époque. Et à cette époque-là, donc en 2013 et avant, ces opérateurs n'avaient droit qu'aux six classes d'émission suivantes. A1A, A2A, A3E, F3E, G3E, J3E. Donc là, Morse, avec, j'aimais une note ou j'aimais pas de note, A3E, AM, FM, modulation de phase, BLU. C'est tout. Et ils n'ont droit, et ça, ça n'a pas évolué. Ils n'ont toujours droit qu'à ces classes d'émission, et qu'à celles-là.
Il faut qu'ils repassent l'examen pour pouvoir...
Il faut qu'ils passent la technique. Que la technique.
Ils font toujours l'examen de la technique, ça va ?
Ben oui, parce que eux, ils ont passé la réglementation. Et comme ils ont eu la réglementation, ils n'ont pas à la repasser. Ça, c'est typiquement les règles françaises. C'est-à-dire que quand tu as acquis une aptitude, ben, tu l'as à vie. Tu l'as à vie. Et donc, ceux qui ont passé l'examen, qui l'ont réussi, avec un indicatif, c'est le fameux F0, ceux-là peuvent, ils n'ont juste que l'épreuve de technique à passer pour devenir des F4 classiques.
Donc ils ont été flashés 12 fois, et là,
ouais.
Ils ne comptaient pas bien.
Enfin voilà, donc ça, ce sont les classes d'émission des F3, et il y a des questions dessus à l'examen. C'est pour ça que je le dis, parce que même 12 ans après, il y a toujours des questions,
toujours des questions
dessus.
Sur ces différences de classe.
Ouais.
Bon, mais bon,
alors, là, j'ai rajouté des commentaires. Type de modulation. Les modulations de fréquence et de phase sont si proches que souvent on ne les différencie pas. C'est-à-dire que l'oreille, déjà, ne la différencie pas. FM ou phase, tu peux émettre dans l'un ou l'autre, tu entendras la même chose. C'est le cerveau qui
joue des tours.
Ouais.
Qui joue pas.
Ben non, qui...
Ouais, c'est pas un peu plus qualitatif la FM quand même. Il y a pas plus de.
Non, FM ou phase, modulation de phase ou modulation de fréquence.
Ah, d'accord, non, ça se passe. D'accord, je comprends.
D'ailleurs, la plupart du temps, quand tu dis je suis en FM, en fait, tu es en modulation de phase. Parce que la modulation de phase est beaucoup plus simple à générer que la modulation de fréquence. Donc, les constructeurs, ils sont pas cons et ils se sont adaptés. Et donc, en cas de doute sur la modulation utilisée, est-ce que c'est phase ou fréquence, eh ben, on mettra le code F. Donc, c'est pour ça que tout le monde parle de modulation de fréquence. Dans le doute, abstiens-toi.
Non.
Mais là, quand je dis là, quand je suis sur ma fréquence là avec mon petit truc là, je sais, ça c'est une modulation de phase. Alors que je dis toujours, je suis sur 144 en FM.
Tiens, t'as un remerciement.
Nature du signal modulant. Lorsque la nature du signal modulant est codée 1 ou 2, il s'agit d'une voie contenant de l'information numérique ou quantifiée avec ou sans emploi de sous-porteuse modulante. C'est la fameuse définition dont je vous parlais tout à l'heure. En C double, donc en morse, l'information est quantifiée car la durée des traits est 3 fois plus longue que la durée des points. C'est ça que ça veut dire quantifier. Dans les modes digitaux, l'information est numérique, donc elle est codée avec les codes D, D, D ou W, et la sous-porteuse modulante, donc le code 2, permet de distinguer par une fréquence différente les 0 et les 1 transmis les uns à la suite des autres. Donc ça, je suis en série. Et l'emploi du code 7 signifie que les données sont transmises en parallèle sur deux voies ou plus. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'est beaucoup plus que deux voies. On peut aller jusqu'à, de mémoire, 16 voies. C'est quand même... Après, il faut avoir la bécane qui permet d'isoler ces 16 fréquences différentes.
En temps réel.
Là, ça se complique.
C'est la nuance.
Là, ça se complique.
Isolé, mais en temps réel, c'est compliqué.
Type d'information transmise, une distinction est faite entre les images fixes, donc facsimilé C, et la vidéo, télévision F. La SSTV doit être codée C et non pas F. Le code B est utilisé pour la télégraphie automatique, texte, avec ou sans système de correction d'erreur, CRC, alors que le code D est utilisé pour la transmission de données avec système de correction d'erreur, soit un ARQ, soit un FEC. Alors ARQ, ça c'est quand on a des bilatérales, et FEC, c'est en fait on rajoute des bits complémentaires pour combler. Ouais. C'est par exemple des...
Vraiment très proche de réseau informatique.
Ah oui, oui.
Non.
Lorsque plusieurs types d'informations sont transmis simultanément, par exemple son et vidéo pour la télévision, on utilise le code W. Bon, tout ça, c'est pour vous rappeler, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais voilà, c'est pour vous rappeler tous ces trucs-là. Enfin, il y a 2 ans à peu près, on a vu venir de nouvelles questions qui concerne le préfixe de largeur de bande nécessaire. Donc, ce préfixe, il se met, comme tous les préfixes avant, il est composé de 4 caractères, une lettre, 3 chiffres, qui permettent de coder la largeur de bande nécessaire à l'émission. Ce n'est absolument pas utilisé par les radioamateurs. Non. Mais c'est dans le RR. Oui, mais t'es pas obligé de dire quelle est ta largeur de quelle est la largeur de la bande que tu utilises. Dans la communication, tu dis je suis en DLU, enfin en J3E, mais tu dis pas que j'ai mis des filtres.
9.5.
Voilà. Et donc cette largeur de bande transmise, elle est codée avec une lettre qui va déterminer le multiple de fréquences utilisées, donc H pour Hertz, K pour kHz, M pour MHz et J et G pour GHz. Et en fait, on va mettre cette lettre à la place de la virgule dans le nombre à coder. Exemple. C'est plus simple de donner un exemple que de lire tout ça. Seul cas possible, normalement, un code commence toujours par un chiffre, avec un chiffre compris entre 1 et 9. Seul cas, c'est quand la fréquence, elle est inférieure au Hertz. Alors, une largeur de bande inférieure au Hertz, je ne sais pas où est-ce qu'on a ça, mais en tout cas pas chez les radioamateurs.
Hein? Pour ne pas être pressé pour entendre.
Parce que je ne sais pas trop comment on peut faire, parce que dès qu'on commence, ne serait-ce qu'à manipuler du morse, automatiquement la largeur de bande, enfin la bande, elle s'élargit automatiquement, et plus on tape vite, plus ça s'élargit.
Ah oui? C'est de l'analogique, ça prend de la place énorme, tandis que du numérique pourrait lui passer entre les manipulations.
Ça c'est un truc, c'est impossible. C'est-à-dire que la bande passante, c'est fonction de l'information que tu passes.
L'aura, par exemple, il me semble. ressemble, ça n'utilise pas une grande bande passante.
Oui, bah ouais, mais ça utilise quelque chose comme, pas, comme, comme 20 Hertz, mais voilà. pas moins d'un Hertz.
Comment ils font les réseaux dans les arbres pour communiquer entre eux?
Ben ça va pas vite, hein. Donc, pour 0,08, ça c'est un truc impossible, 0,08 Hz, on coderait H0,80. Pour 0,15 Hz, H150. Ça c'est, à mon avis, ça c'est pas pour les radioamateurs. Au-delà, ça commence à devenir intéressant. 90 Hz, et ben 90 H0. 400 Hz, 400 H. 2,7 kHz, typiquement ça c'est de la BLU. En BLU, j'aimais grosso modo ma voix de 300 Hz à 3 kHz.
Ce que je comprends pas, c'est 90 Hz égale 90 H. Pourquoi le 0 après le H?
Bah parce, qu'en fait, bah parce qu'il me faut 4 caractères.
Hein, pardon?
Il faut 4 caractères.
Ah, d'accord, eh j'avais pas retenu ça.
Eh
ouais, c'est écrit
aussi. Il y a toujours 3 chiffres et une lettre. Toujours.
Donc, on a 2,7 kg.
Voilà. Et tu ne peux pas commencer par un zéro.
Bien sûr.
Oui, c'est, en fait, c'est la seule condition où tu commences par la lettre.
Voilà.
Quand c'est zéro, tu commences par la lettre.
Voilà. Mais là, ce sont des trucs.
Ça veut séparer.
Voilà. Et donc, 2,7 kHz, c'est 2K70. 6 MHz, 6M. 2,0. 15,84. C'est des trucs tordus. Donc, si c'est à 15,84, en fait, je tronque. Enfin, j'arrondis.
Le 4,
il disparaît. Et si je fais 15,85, et ben là, du coup, je passe au-dessus, puisque au-delà de 5, je passe à l'unité au-dessus. Donc, c'est 15G9. C'est logique.
Oui.
Une fois qu'on a compris la logique du truc, c'est plus facile. Oui. Et donc, par exemple, de la BLU avec une bande passante de 2,4 kHz, donc de la BF qui va de 300 Hz à 2,7 kHz, qui est un truc assez standard, ça me donne comme codification 2K40J3E. De la FM avec une excursion plus ou moins 5 kHz, donc si c'est plus ou moins 5 kHz, ça me prend 10 kHz, il double, ça me fait 10K0F3E. Mais concrètement, moi je vais, puisque derrière, c'est ce que je devrais indiquer dans mon journal de bord, je vais indiquer J3E ou F3E, je ne veux pas rajouter la bande passante, enfin la bande, la largeur de bande utilisée devant, la plupart du temps je ne le sais pas d'ailleurs. Enfin, je me doute et je ne sais pas. Alors le mégahertz est le plus souvent. Le mégahertz le plus souvent. Non, c'est plutôt le kilohertz. Hein. C'est le kilohertz qui est plutôt utilisé par les radioamateurs en termes de multiples pour les largeurs de bande. À part pour la télévision, où on peut avoir. La télévision, c'est grosso modo, on va dire 6 MHz pour faire en couleur. Pour avoir la couleur. 6 MHz. En noir et blanc, on peut arriver à 1 MHz.
Donc les GHz, on les attend jamais en fait.
Bah, qu'est-ce que tu veux passer Bah, après, qu'est-ce que tu veux passer aussi comme information? Pourquoi pas? Mais ça nécessiterait, par exemple, dans un faisceau hertzien. Là, tu peux passer des gigahertz. Mais déjà, passer 15 gigas, ça veut dire que ta bande, elle doit avoir au moins 15 gigas de largeur. Sinon, ça passe pas.
Non, mais en fait, dans ma tête, c'est juste la comparaison. Parce qu'en fait, quand tu. La comparaison avec le numérique, avec les réseaux tout court. Quoi.
Oui.
Donc tu te dis, en général, on a tout de suite tendance on a envie d'augmenter parce que
les
débits sont. Et c'est marrant que ça n'a pas eu la même.
Ah bah non, tu vois, tu.
Ça n'a pas eu la même évolution
dans ce cas-là. Alors pourquoi ma batterie? Ah bah oui. Hop.
Tu vois, c'est juste par rapport à...
Ouais, je comprends.
Mais c'est psychologique, c'est pas...
Alors, on a quelques schémas. Dans la partie réglementation, on a quelques schémas. Ce qui posait quand même problème quand on avait... Enfin, quand il y avait les examens que pour les F0, puisque quelque part c'est de la technique ça. C'est quand même des questions que j'ai pas vues depuis très longtemps, donc je suppose qu'elles ont été retirées, mais c'était une représentation un petit peu schématique des types de modulation. Donc ça, on reviendra plus en détail quand on fera la partie technique, mais au moins que vous compreniez de quoi on parle quand on parle de modulation d'amplitude. Là, c'est donc mon signal qui est ma sinusoïde de ma fréquence d'émission, dont l'amplitude varie. Alors, elle va donc la ce qu'on appelle ici l'enveloppe, elle a la même forme au-dessus qu'en dessous, enfin elle est prise comme dans un miroir. Donc ça, c'est de la modulation d'amplitude pure. Ici, vous avez de la BLU, qui est une forme de modulation d'amplitude. C'est une forme. Bah parce que... Ah bah je retire la porteuse.
Ça correspond à quoi de BLU alors ?
Bande latérale unique.
D'accord. C'est l'équivalent du LSB, en fait.
Oui, enfin, LSB, enfin, USB, LSB, ouais.
Ah, il y en a deux.
Bah, soit c'est la bande supérieure ou c'est la bande inférieure.
D'accord.
Quand tu émets en AM, tu émets une bande latérale inférieure, une porteuse, une bande latérale supérieure. Et quand tu es en BLU, bah, tu supprimes une des deux bandes latérales et la porteuse. Pourquoi ? C'est que la porteuse, il n'y a aucune information qui est transmise dans la porteuse, et dans des deux bandes latérales, tu as la même information.
Ah, d'accord.
Donc ça ne sert à rien. Donc tu en supprimes une.
C'est pour économiser de...
Bah, de la bande passante, et puis de la puissance aussi. Parce que la puissance, du coup, tu la mets
sur une zone plus courte.
Exactement. C'est la densité de puissance. C'est une histoire de densité de puissance. Ah, c'est une stratégie, hein. Donc ça, c'est de la BLU. Après, on a le morse. Bah là, j'aimais ou j'aimais pas. C'est facile. Et ici, ma FM. Donc là, alors je sais pas si je suis en FM ou en modulation de phase. Mais je vois bien ici que ma sinusoïde, elle n'est pas régulière. Enfin, la largeur entre chaque sinusoïde, elle est variable. Donc c'est ça ma modulation de fréquence.
D'où je crois que tu vas. Le MHZ est plus souvent utilisé quand même.
Ouais, mais ça c'était, je l'avais lu, c'était le commentaire qui était avant. Donc voilà, il y a... Maintenant, quand même, il y a assez peu de questions. Enfin, tout au moins, j'en ai pas vu récemment. Donc, je pense qu'elles ont été retirées sans en être certain. Alors, ça, par contre, il y a des questions tordues. Avant 2012, on avait du matériel obligatoire. C'était l'indicateur de puissance, l'indicateur de rapport d'onde stationnaire, la charge non rayonnante et le filtre d'alimentation. Ça, c'était les quatre matériels obligatoires. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul. C'est l'indicateur de puissance. Et indicateur de puissance, ça ne veut pas dire un wattmètre. Enfin, ça veut dire wattmètre. Mais quand on dit indicateur de puissance, c'est juste savoir si je suis en émission ou pas. C'est surtout ça que ça veut dire.
D'accord, même pas la puissance.
Bah, c'est-à-dire qu'un wattmètre, après, on va te demander quelle tolérance pour ton wattmètre. Et là, on va commencer à être un peu dans la mouise. Parce que, voilà, de quoi on parle. Parce que pour avoir un wattmètre qui t'indique les vrais watts, eh bien, tu cherches. Hein.
En munitions? Ça m'en coûte?
Ben oui, il y a guère que ça. Ce qu'on appelle un bolomètre. C'est-à-dire que tu fais chauffer un truc et puis tu mesures la température.
La tension au bord de la jonction.
Hein?
C'est la tension au bord de la jonction.
Oui, mais le bolomètre, c'est avec
Ah,
un, ça,
c'est
c'est encore le plus vieux truc. C'était, tu mettais une résistance et
voilà.
tu mesurais la température de la résistance et t'en déduisais la puissance.
D'accord.
C'est un truc
Ah, c'est tellement récompense.
bestial.
Bah,
Ouais. Ouais, quelque part.
soit la coefficient de température positive, ou ICTM négatif.
Voilà. C'était le. Et parce qu'un wattmètre, c'est un. En fait, ce que tu indiques, c'est
Oui,
soit
c'est
une
deux
tension.
aiguilles qui font comme
Ah oui,
ça, là.
d'accord. Mais tu indiques
Et
une
c'est
tension
pas.
ou une intensité.
Oui, et en plus, c'est par rapport à la fréquence là où tu es. Enfin, c'est pas.
Ouais. Et puis par rapport à l'impédance aussi.
Ouais, bah
Puisque
oui.
ce que tu
Bah
mesures, c'est
oui.
une tension ou une
Ah, bah
intensité.
oui, pour que ça suive. C'est vrai.
Ah non, mais c'est. Donc voilà. Et puis aussi, on avait l'excursion FM qui était limitée. Et il y avait un problème, enfin, des limites de la stabilité des oscillateurs. Maintenant, on n'a plus tous ces trucs-là. Nos postes, ils sont super stables. Alors qu'auparavant, c'était des.
Allez, thermostaté.
Fallait les thermostater, t'avais des quartz, ça variait comme pas
Selon la
possible.
température, c'est ça?
Ouais,
Ah
ouais,
ouais.
ouais. Maintenant, c'est. Enfin, c'est un monde merveilleux maintenant. On t'indique une fréquence au hertz près, qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est plus ou moins faux, mais. Mais c'est. Non, mais. On est dans un autre monde. Et donc, depuis cette décision 2012, il y en a. On n'a plus qu'un seul matériel obligatoire, c'est l'indicateur de puissance. Et généralement, il est indiqué. Toi, mon émetteur, là, il est un bar graphe. C'est un indicateur de puissance. Parce qu'il suffit que je relâche le micro, le bar graphe descend, ça y est.
T'envoies plus de porteuse.
J'en vois plus de porteuse. Donc voilà, quand on parle d'indicateur de puissance, enfin, c'est un wattmètre, mais c'est pas un truc super précis, quoi. C'est juste pour dire je suis en émission. Et généralement, ce matériel, il est incorporé à la station. Alors, il est plus ou moins précis, mais on ne te demande pas un truc précis, là. On te demande un indicateur.
On voit ce que je disais ou pas.
Voilà. En revanche, depuis 2012, et ça c'est super important, la largeur de bande occupée, elle dépend finalement de la fréquence sur laquelle on émet.
C'est
C'est-à-dire
marrant.
que ça ne peut pas être supérieur à 6 kHz pour les bandes inférieures à 28 mégas, 12 kHz entre 28 et 144, donc le 144, c'est le début de la bande radioamateur. Donc finalement, les 12 kHz, c'est valable sur le 28 mégas et sur la bande 50 mégas. Les bandes, on les verra la semaine prochaine. Ah, il n'y a que deux bandes qui sont concernées. 20 kHz
Une question
de
concernant.
144 à 225. Alors, une seule malheureuse LED, ouais, exactement. Une seule malheureuse LED peut être qualifiée d'indicateur de puissance, exactement.
Ouais, on aimait ou on n'aimait pas.
J'aimais ou j'aimais pas. Alors, je suis d'accord, c'est pas génial, mais au
Non, mais ça fait
moins,
le job, c'est vrai, ça fait
mais
le
ça fait
job.
le job.
Donc, si le but de savoir, si le but est de savoir si tu
Bah oui, le
émets
but
si.
c'est de savoir si on est en émission. C'est tout, hein. Donc 12 kHz, 20 kHz, pardon, de 144 à
Le terme a un
225.
peu biaisé parce que justement on appelle ça indicateur de puissance. En fait, ça aurait dû être indicateur d'émission, tout simplement.
Ah
Hein?
oui,
Tu
je
vois,
suis
c'est
d'accord.
la terminologie
Ouais,
qui.
ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais le terme, enfin.
Oui, c'est comme ça qu'il faut l'employer, quoi, c'est
Voilà.
ça. Il faut
Entre
qu'on.
144 et 225, finalement, il n'y a que le 144. Parce que le 225, c'est une bande qui n'est attribuée qu'en région 2. Et c'est le bout de la bande. Donc il n'y a que le 144. et il n'y a aucune limite au-delà de 225, donc à partir de 430 mégas, puisque c'est la première bande au-delà de 225. Donc il n'y a aucune limite au-delà de 225 mégahertz. La limite étant la largeur de la bande elle-même. On n'a pas le droit, évidemment, d'émettre en dehors de la bande. C'est con, mais ça va mieux en le disant. Et ce que dit le texte, qui n'est pas trop con, c'est que l'optimisation de la bande passante occupée par une émission doit être recherchée. Bah, évidemment, on va pas essayer, enfin, le but du jeu, c'est pas d'utiliser toute la bande, tout le spectre. C'est d'essayer de vivre avec les autres. Voilà. Donc il y a quand même quelques questions, notamment ici sur l'excursion, sur la stabilité des oscillateurs plus trop, mais aussi sur la fréquence émise. Alors, ce truc-là, la fréquence émise est repérée. C'est-à-dire que auparavant, un fréquence mètre, ça n'existait pas. Les premiers fréquences mètres intégré au TX, ça date des années 80. Avant, ça n'existait pas. La seule manière de repérer la fréquence, bah, c'était le vernier, donc le bouton qui tournait. Ce qui veut dire que pour les appareils décamétriques, il fallait que le vernier soit gradué tous les kilohertz. Puisque on disait là que la fréquence émise est repérée plus ou moins kilohertz ou 10 puissance moins 4. Plus ou moins 1 kHz, c'était en dessous de 30 mégas, et au-delà de 30 mégas, c'était au moins 10 puissance moins 4. Donc c'est pour ça que dans tous les appareils, les vieux appareils, là, vous aviez les petits traits, tous les kHz, et non pas tous les 5 kHz. Alors il y avait peut-être un grand trait, mais il y avait aussi un petit trait tous les kHz, pour savoir où on était. Et ce qui, alors, auparavant, il y a très longtemps, avant 83, c'était aussi ce qu'on appelait le calibrateur à quartz. C'est-à-dire que c'était un oscillateur à quartz qu'on utilisait pour vérifier que...
Par battement,
pour vérifier que la fréquence affichée était bien la fréquence d'émission.
Oui, comme tu disais, ça dépendait de chaque...
Ouais, ouais.
En coche du rond là, du cercle là.
Ouais, ouais.
Mais s'il était mal placé,
Ouais. Donc c'était le fameux calibrateur à quartz, qui était obligatoire dans toutes les stations. Ouais, mais je le sais, puisque moi j'ai passé l'examen avant 83, en 80 plus court, et on avait notre calibrateur. Enfin, fallait venir avec son calibrateur à quartz. Quand bien même l'émetteur qu'on avait un fréquence mètre.
C'est un peu l'équivalent du VNA maintenant.
Tout le monde a son VNA maintenant. Parce que c'est tellement...
Ça coûtait 10 000 balles il y a quelques temps. Enfin...
Maintenant, ça coûte rien. Donc tout le monde tout le monde prend ça et c'est le pied ce truc-là.
Avant, franchement, tout le monde rêvait d'en avoir
un. Puis tout le monde disait, enfin VNA, tout le monde disait, ah, c'est quoi ce truc-là? Matériel de laboratoire qui coûtait une fortune. Ouais. Maintenant, 50 euros, t'as ça en Chine. Bon.
T'oublies le fréquence mètre.
Alors, le générateur de ton. Alors ça, c'est une grande question. Visiblement, le générateur de ton, là, il y a eu un... Comment dire, le slide, j'aurais dû le mettre à jour. On a eu dernièrement, au mois d'août, un quelqu'un qui a passé l'examen, où il y a eu le générateur de ton est-il obligatoire, il a répondu non, et il a eu tout bon. Donc ça veut dire qu'il a bien répondu. Jusqu'à présent, l'ANFR, on ne sait pas trop... en tout cas, il y avait un problème sur ce générateur de ton, et l'ANFR soutenait que le générateur de ton était obligatoire dans toute station radio amateur Voilà, que c'était obligatoire.
Et de Roger B.
Oui, ben le ski, en fait, le problème, c'est que quand tu es en modulation d'amplitude, quel moyen, puisque mon amplitude, justement, ma puissance, elle varie tout le temps, quel moyen j'ai pour vérifier ma puissance? Puisque ici, ma tension, elle varie tout le temps.
C'est le maximum atteint, ta puissance.
Ah, oula, ça se complique. Et comment tu le fais, le maximum atteint? Tu siffles dans le micro.
Ah non,
non, non. Eh ben non, tu utilises un générateur de ton. Et le générateur de ton, en plus, il te permet, si tu as un analyseur de spectre au cul de ton émetteur, de vérifier que tu ne génères pas d'harmonique.
Le VNA.
Et sinon, il y a le VNA. Mais non, mais le VNA, par contre, ça, tu l'utilises... Alors, comment tu marches, d'ailleurs, avec le VNA? Je ne sais même pas. Ça ne doit pas marcher, hein. C'est pas suffisamment... Le VNA, c'est très large, quand même. Alors que quand tu es en BLU, t'as sur 3 kHz. Le VNA, il ne fait pas une analyse sur 3 kHz. Enfin, voilà, ça je sais pas trop comment. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que visiblement la NFR considère que le générateur de ton n'est pas un matériel obligatoire. Moi, je dis le matériel, enfin, le générateur de ton est un matériel recommandé. C'est pas con.
C'est pas ça, un générateur de ton.
Alors, de ton, pourquoi? Parce qu'en fait, ça envoie deux signaux. C'est surtout pour la BLU. Tu envoies deux signaux qui ne sont pas harmoniques entre eux. Et tu regardes à la sortie de ton émetteur BLU si tu retrouves bien tes deux signaux. Si tu retrouves autre chose, parce que la plupart du temps, tu as autre chose que tes deux signaux. Et si tu les as, si tu as ces deux signaux complémentaire. On verra ça quand on fera la partie technique. Parce qu'on voit bien avec un analyseur de spectre, tu vois bien que tu as des raies parasites qui se mettent sur le côté. Ça veut dire que ton émetteur n'est pas linéaire. Et donc, du coup, il a généré des harmoniques. Et généralement, ce sont des harmoniques qu'on appelle impaires. On verra ce que c'est, les harmoniques paires, les harmoniques impaires. C'est des trucs assez...
C'est un sacerdoce.
Mais non, mais une fois que tu as compris ça, après, tu as tout compris. Hein.
Oh, bah, je pense que les harmoniques, c'est quand même un sujet qui est important. Quoi.
Ouais, mais les harmoniques impaires, là, c'est la mort. Ouais. Enfin, c'est pas des harmoniques, d'ailleurs. Ce sont des distorsions, ce qu'on appelle des distorsions. Des distorsions qu'on appelle des distorsions cubiques.
Enfin, du coup, ça fait du bruit, quoi, c'est ça. Hein.
Bah, ça génère...
Des nuisances dans l'émission et la réception radio.
Ben, et c'est surtout que derrière ton correspondant, tu ne reconnais plus sa voix. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a une voix, soit il a une voix de canard ou une voix...
Carrément, ça va jusque ça.
Ah
ça.
Oui.
D'accord.
Tu ne reconnais plus sa voix et puis vraiment, quand c'est dans le cas extrême, tu ne comprends même plus.
Comme s'il a parlé avec de l'hélium.
Voilà, ou comme s'il parlait avec de l'hélium. Ça, c'est des cas extrêmes, hein, quand même. Mais... Voilà. Et enfin, on a un joli... dans la réglementation de 2012, on nous a rajouté une belle phrase. Les stations doivent se conformer aux dispositions de l'article 3 du RR concernant les niveaux de puissance maximaux tolérés par les rayonnements non essentiels. Point barre. C'est tout ce qu'il y a écrit. Et, quand ils ont sorti ce texte-là, ils disent mais ça veut dire quoi, ça? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher dans le RR, l'appendice 3. Et là, horreur.
C'est encore plus compliqué.
Horreur. Il y a dans le bouquin, là, il y a alors, la fin d'histoire, il est là, il fait une, deux. Trois. Voilà. Il fait six pages. C'est imbuvable.
Indigeste.
Indigeste. Parce que c'est de la technique, mais écrite par des fonctionnaires de l'UIT. Par des juristes. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, il faut que je mesure mes rayonnements non essentiels. On va voir ce que c'est un rayonnement non essentiel. Ils ne doivent pas dépasser un certain niveau. Et ce niveau, il est fonction de la puissance que j'utilise. C'est simple. Et donc, on a sorti une jolie formule. Les rayonnements non essentiels, donc les RNE, rayonnements non essentiels, ça se mesure en dBc, donc décibels par rapport... Alors, C, c'est la porteuse en anglais.
Carrier.
Carrier. Donc, dB, décibel carrier, donc le décibel par rapport à la porteuse, par rapport à l'émission principale. Et donc, ces rayonnements non essentiels doivent être inférieurs à 43 décibels plus 10 log de P, P étant la puissance d'émission. Donc, une fois que vous avez dit ça, tout le monde part en courant. Voilà. Donc, on verra ce que sont précisément les décibels au chapitre 5. Voilà. Mais vous inquiétez pas, un décibel, c'est finalement un rapport de puissance.
C'est des unités de mesure.
C'est une unité de mesure, c'est un rapport de puissance. Donc, on prend la formule telle que, on va voir, il y a des applications. Avec un cas particulier, c'est que pour les fréquences inférieures à 30 mégas, le calcul que je vais trouver là en fonction de ma puissance utilisée, je vais le limiter à 50 décibels, 50 dBc. Donc 50 décibels par rapport à ma porteuse. 50 décibels par rapport à ma porteuse, ça veut dire 1 cent millième. Donc, mais, parce qu'il y a 5, et c'est donc 5 cent millième, donc c'est, il y a 5 zéros. Donc mes rayonnements d'onde essentielle doivent être inférieurs à 1 cent millième de ma puissance d'émission. Simple.
Oui.
Et pour les fréquences supérieures à 30 mégas, c'est limité à 70 dB, mais on ne pourra jamais y arriver. Pourquoi? C'est qu'on ne l'a pas encore vu, mais notre puissance maximum d'émission est de 120 watts. 120 watts, ça fait grosso modo 21 dB. Donc si je fais 43 plus 21, ça me fait 64, donc je ne peux jamais atteindre mes 70 dB. Donc au pire, ça sera donc 60. Et donc c'est fonction de la puissance, directement fonction de la puissance. Et donc compte tenu de cette belle formule-là, la puissance des rayonnements non essentiels ne peut jamais excéder moins 43 dB watts. Et moins 43 dB watts, ça fait 50 microwatts. C'est pour ça que partout, dans tous les techniciens, ils vous diront que les rayonnements non essentiels, au maximum, c'est 50 microwatts. Eux, ils ont fait un truc simple. Et donc, ça se...
Voilà. Oui, ils ont déjà calculé.
Ils ont déjà calculé, et la conclusion, c'est ça. Et ça, c'est valable, cet appendice 3, c'est donc appliqué aux radioamateurs, mais à tout système radio. À partir du moment où vous avez le logo CE au cul d'un émetteur, donc le logo CE, ça veut dire que c'est conforme à l'appendice 3.
D'ailleurs, je crois qu'ils ont des agréments.
Ah oui ? Attends, ça, on verra ça.
Ça s'achète, bien sûr.
On verra ça quand on en parlera.
C'est pas aussi. Ouais. Ils ont le droit à tous les fabricants de mettre de s'auto-certifier.
Ouais, ouais,
ils sont... Non, c'est pareil. Il y a une société qui s'en est société qui est désignée par l'Europe, mais ils font des magouilles. C'est-à-dire qu'en fait, ils valident un produit. Ce produit-là, ok, il passe le contrôle. Mais plein d'autres produits ne passent pas de contrôle. Mais pour prendre le bon certificat, ils copient.
Bon, on n'est pas là pour désinguer les gens.
Bon, en tout cas, ils nous ramènent des produits.
Bon, pas cher, c'est le principal. Donc voilà ma formule. Alors, heureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de questions là-dessus. J'espère que ça va pas, évoluer.
Bah, ça serait chiant, ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle des rayonnements non essentiels ? Alors, je vous ai mis la définition telle que c'est écrit dans le RR. Alors, RNE peut être réduit par des filtres passe-bas. Oui aussi, oui, c'est vrai. Ça peut être réduit par des filtres passe-bas. Mais vous allez voir que c'est pas aussi évident que ça. Pourquoi ? Ça, c'est une représentation de ce qu'il y a dans le RR. Dans le RR, c'est pas aussi bien écrit que ça. Je ne vais pas vous le passer.
C'est traduit en juridique.
Ouais, c'est traduit en juridique. Ici, vous avez la bande passante nécessaire à l'émission. Hein, c'est tout à l'heure, on a parlé, par exemple, en PLU, de mes 3 kHz. Donc, c'est ma bande passante d'émission. 10 kHz quand je suis en FM, parce que c'est mon excursion. Donc là, c'est 10 kHz. Donc ça, c'est la bande passante nécessaire à mon émission. Ok ? Je prends cette bande passante nécessaire à mon émission et je multiplie par 2,5. Je me passe ici par rapport à la moitié, enfin au milieu de ma bande passante, et j'envoie ici 2,5 dans ce sens-là, 2,5 de bande passante dans ce sens-là. Ça veut dire que là, en tout, j'ai 5 largeurs, 5 fois la bande passante. D'accord ? Donc ça, c'est bande passante. Ici, ce sont ce qu'on appelle les émissions hors bande. C'est pas ça que je vais mesurer. Ce que je vais mesurer, c'est au-delà. Donc c'est tout ce qu'il y a avant les émissions hors bande et tout ce qu'il y a après les émissions hors bande. Parce que ici, je suis trop proche ici de mon émission et que si je commence à mesurer là, ben, je suis certain de ne pas obtenir mes 50 microwatts. C'est certain.
Surtout que tu proches de la Terre.
Voilà, il faut que je sois au-delà ici. Ici, ça, c'est ma puissance. Donc là, on voit bien que la puissance, elle monte. Jusqu'ici, ma bande passante.
Il y a un pourcentage sur la pente ?
Non.
Non.
Alors, non.
C'est comme ça.
Non. Tu mesures avant. Enfin, avant ici, pardon. Après, ici. Ici, tu mesures rien.
En fait, c'est pas sur la fréquence elle-même qui fait.
Voilà.
C'est sur ton empiétement sur les autres qui
fait. Ouais.
C'est
ouais. Tout ça qui... Et quand bien même ici, ton émission, elle ne soit pas dans la bande radio-amateur. Ouais. C'est-à-dire que la bande radio-amateur, tu n'as pas le droit d'émettre, hein, donc ta bande passante ici, tu n'as pas le droit d'émettre, évidemment, en dehors de la bande radio-amateur.
Par exemple, les routeurs Wi-Fi vont rester dans leur 2,4 GHz, c'est pas aller dans le 2,6 GHz.
Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et donc là, c'est ce qu'on appelle c'est les émissions hors-bande. Mais quand on dit hors-bande, c'est pas hors-bande radio-amateur, c'est hors-bande passante.
Ça concerne tous les types de communication.
Et ça, c'est valable. Ah oui, c'est pas que les radioamateurs, hein, c'est tout le monde. Hein. L'appendice 3, on est bien d'accord, ça concerne tout le monde. Tout le matériel homologué CE.
Heureusement que tu as traduit le blabla en un schéma.
Voilà. Et au, voilà. Et donc là, j'ai mon atténuation, elle doit être ici, mes fameux 50 microwatts, ici et ici. Pas plus. Quelle que soit la puissance que j'ai ici. Donc si j'ai 120 watts, 50 microwatts, il n'y a pas grand-chose. Il y a intérêt à faire gaffe. D'autant plus que ici, j'ai pas une grande. Enfin, c'est pas très large. Hein. J'en suis assez proche. Alors, les rayonnements non essentiels peuvent être interprétés par de la moustache. Oui, oui, exactement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des moustaches. Alors, plus exactement, les moustaches, ce sont les émissions hors bande, parce qu'elles sont juste à côté de l'émission. Ça s'appelle des moustaches, des splatters en anglais. Et donc, les moustaches, c'est plutôt les émissions hors bande. Parce qu'elles sont juste, elles sont adjacentes. Ouais, elles sont juste à côté. Donc, les moustaches, c'est ça. Et normalement, après, on espère qu'il n'y a plus de moustaches, hein, qu'il n'y a plus rien.
Faut couper après.
Faut couper. Faut
aller chez le barbier.
Alors, heureusement, à l'examen, encore une fois, pas de questions. Pas encore de questions. Mais que vous. Mais voilà. Et ça, c'est pour que vous compreniez bien de quoi on parle, là.
C'est une question sur les moustaches.
Hein? Non, mais de toute façon, après, ils peuvent poser des questions sur émission non désirée. Bah, c'est tout ce qui naît en dehors de la bande passante.
C'est bon.
Et donc, dans les émissions non désirées, il y a les émissions hors bande qui sont juste à côté,
juste
les non essentielles sur lesquelles on est réglementé.
Ouais, ouais, ouais.
Histoire de vous faire un peu... j'ai repris vraiment le texte pur et dur. Si ça vous intéresse, vous regardez ça plus en détail. Mais...
On a donné des exemples,
carrément. Et puis on a été dans le détail, c'est-à-dire que 10 watts sur 1450 en bande latérale supérieure. Donc là, je suis en BLS, donc au-delà de ma porteuse. 1450, c'est ma fréquence de porteuse. Donc ça veut dire que je suis de 1450,4 à 1453, puisque j'ai ma bande latérale supérieure. 1450, c'est ma porteuse que j'ai supprimée. Donc je n'ai rien là-dessus. Ok ? Donc ma fréquence centrale, c'est 1451,7. Hein, pour se faire un petit schéma, Et donc ma frontière entre les rayonnements non essentiels et la bande passante, donc c'est 2,6 fois 2,5. Mais le texte de l'UIT me dit que quand je suis sur les fréquences, sur cette fréquence-là, je peux me mettre à 10 kHz. Quand bien même ma bande passante, 2,5 fois ma bande passante, ce soit inférieur à 10 kHz. Donc j'arrondis à 10 kHz. Donc ce qui veut dire que mes rayonnements non essentiels, ils sont inférieurs à 1441,7, 1451,7 moins 10 kHz, et 1451,7 plus 10 kHz, donc 1461,7. Et le niveau des rayonnements non essentiels, c'est quoi? C'est 40 décibels, 43 décibels plus 10 log de P. 10 log de P, P c'est 10. 10 log de 10, alors log de 10 c'est 1. Donc 10 fois 1, 10, ça me fait 53 dB. Donc j'atténue mes rayonnements non essentiels de 53 décibels. Mais sur les fréquences inférieures à 30 mégas, je suis limité à 50. Donc mon 53 se transforme en 50. Et donc 50 décibels, j'ai 10 watts, je limite à 50 décibels, donc 10 watts divisé par 100 000, ça me fait 100 microwatts. Facile.
Faut
suivre le raisonnement. Faut suivre le raisonnement. Même raisonnement ici sur le 144. Là, j'ai 100 watts. une excursion en FM de 6 kHz, pourquoi pas. Donc 144-600. La frontière entre les rayonnements non essentiels et les émissions hors bande, c'est 12 fois, puisque l'excursion, c'est 6 kHz. Donc, ma bande passante, c'est 2 fois 6 kHz, c'est-à-dire 12 kHz. Donc, 12 fois 2,5, 30 kHz. Sur cette fréquence, le texte me dit que je peux augmenter à 62,5. Donc, j'y vais. Donc, le domaine des rayonnements non essentiels commence à 144,5, puisque c'est 144,600 moins 62,5, et terminera après, donc 144,600 plus 62,5, c'est-à-dire 144,662,5. Et quel est le niveau maximum des rayonnements non essentiels? J'ai 100 watts, donc ça me fait 10 log de 100. Log de 100, c'est 2. Donc 2 fois 10, 20. 43 plus 20, 63 décibels. Et 63 décibels, puissance des rayonnements non essentiels, donc c'est mes 20 dB, donc ma puissance, mes 100 watts transformés en dB, moins mon atténuation, 63 dBc, ça me fait moins 43 dB. Et je retrouve mes 50 microwatts. C'est QFD.
Ah, je vois le log, là, je ne connaissais pas.
Le log?
Personnellement, j'ai jamais vu le log.
Ah bon? Le log de 100, en fait, log, c'est l'inverse du 10 puissance. Un 10 puissance 2, c'est 100. Ouais. Un 10 puissance 2, c'est 100. Et donc, log de 100, c'est 2. C'est la puissance
oui, c'est
de 10.
C'est l'opération inverse.
C'est la puissance, c'est l'inverse de la puissance de 10. De la puissance de 10.
De la puissance tout court.
De 10.
Oui, parce que là, tu as mis le 10.
Non, mais d'accord. Non, c'est parce que si c'est la puissance de 2, c'est plus le logarithme.
D'accord. Okay.
C'est la puissance de 10.
D'accord.
Et puis tu as aussi la puissance de E, du nombre E de 2714. C'est le logarithme népérien.
Ouais, mais du coup, la problématique, c'est que comme on ne connaît pas ce genre de trucs-là,
ouais.
Tu vois, c'est
non, mais on reviendra quand on fera la partie technique. Bon, oh là là, on reviendra
on
avec la
manger,
calculette.
D'accord.
On va en manger.
Okay.
Mais après, tu vas voir, le
oui,
les logs,
ça
va venir
concept.
Tout.
Non, c'est
un concept. Après, tu vas le voir sans problème.
Je n'ai pas de doute là-dessus.
Autre petite joyeuseté, ça parle là des problèmes de renvoi de fréquence dans le réseau EDF.
Demande aux collègues s'ils connaissent les logs.
Ouais. Bon, on va les voir, on va les voir les logs, vous inquiétez pas. Donc on a des mêmes choses, les alimentations, elles ont leur petit logo CE au cul. Et ça veut dire qu'elle ne renvoie pas de HF dans le réseau électrique, pour foutre le bordel.
Elle ne doit pas le même rayonner.
Voilà. Et donc, il y a des normes. Alors, il y a la CISPR 11. Ça, c'est la norme électrique. Et la EN301-743 qui fixe les caractéristiques à respecter pour les équipements radioamateurs. Donc c'est une norme, hein, EN c'est norme européenne, European Norm, facile. Et donc cette norme européenne, la 301-783, elle ne s'occupe que du matériel radioamateur, aussi bien en émission qu'en réception. Et la CISPR 11, alors celle-là elle est super connue, c'est savoir ce que l'on renvoie dans le réseau EDF.
Interférences causées.
Voilà, alors évidemment, même si c'est pas écrit dans la décision 1241, comme notre matériel il est censé il doit être conforme aux ce qu'on appelle conforme aux exigences essentielles. Donc ça veut dire appendice 3 du RR, et de rien renvoyer dans le réseau EDF. Alors, c'est peut-être pas écrit, mais c'est obligatoire, enfin, tout le matériel est obligatoire. Pour tout matériel, c'est obligatoire de respecter ces règles-là, ce qui est logique. Alors, juste pour information, avant la CISPR-11, il y avait l'EN55011, qui est devenu obsolète, et qui a été, jusque dans les années 2005, par là, je crois, et qui était un peu moins méchante que la CISPR. Ici, là, je vous ai mis les... Ça, en rouge, c'est la norme, la 11, et la verte, ici, qui était un peu moins méchante, la 55011. Voilà. Et donc, ici, vous avez les millivolts renvoyés dans le réseau. Donc, vous voyez, c'est des millivolts, là, hein. Il n'y a pas grand-chose, hein. Et ici, vous avez les fréquences. Et donc, les fréquences, là, ici, là, donc on est à de 0,5 à 5 mégas, ici, on doit renvoyer moins de 0,63 millivolts. Donc, il n'y a pas grand-chose, hein. Et donc, alors, c'est pas écrit 0,63 millivolts dans la norme, c'est marqué en décibels microvolts. Mais c'est pareil, faut avoir la traduction, puis une fois qu'on a la traduction, ça, c'est bon. Hein. Et donc un millivolt, c'est donc 60 décibels microvolts.